Je crois que Samuel Joshua ou alors André Paris, comme vous souhaitez. André Paris.
Deux brèves sur les jeux institutionnels et administratifs extrêmement sombres, sinon noirs, et sur le terrain atomique. Les décrets de septembre 2003 relatifs aux règles de radioprotection. Il y a des règles de radioprotection qui normalement s'appliquent aux citoyens.
Ça marche pas. Peut-être c'est mieux de, si vous pouvez répéter.
Non, non, c'est bon.
Non, c'est bon?
Donc j'en étais aux règles de radioprotection qui s'appliquent normalement pour protéger les citoyens. En cas d'accident nucléaire grave, qu'on appelle un accident hors dimensionnement, sans trop savoir ce que ça veut dire, les règles de radioprotection, d'après ces décrets, ne s'appliqueront plus. Les mesures de radioactivité qui seront faites de manière militaire et relèveront du secret défense. Les conséquences et les mesures qui seront prises seront dans le secret défense aussi et de manière militaire. Et nul n'aura le droit de se manifester et de dire quoi que ce soit. Deuxième très brève, la CRIRAD s'est aperçue par hasard au sujet de notre alimentation que le Codex Alimentarius était en révision. Codex Alimentarius, c'est la charte mondiale onusienne du statut de notre alimentation et produits agricoles qui la fournit. Révision au niveau des niveaux de contamination radioactive. Toujours, ce codex doit être géré par la FAO. La FAO, estimant qu'elle n'avait pas les compétences, elle a refilé à l'AEIA, qui est l'agence onusienne de promotion du nucléaire. Et on s'est aperçu que ce qui était déjà prévu, c'est que les niveaux de contamination radioactive qui allaient être admis par cette révision étaient dans certains cas au-dessus de ce qui actuellement était interdit, mais que ces niveaux étaient ce qu'on appelle des niveaux d'exemption, c'est-à-dire des nouveaux zéros auxquels on ne devrait jamais faire référence sous peine de sanction. Alors voilà deux sujets où je pense que la citoyenneté a tout à fait intérêt à jeter un regard vigilant. Et le fait que le Codex Alimentarius, ces trafics aient été dénoncés, les trafics ont provisoirement cessé. Donc c'est une victoire très provisoire à la citoyenneté. Mais à suivre.
Donc Samuel Joshua, pardon. Bon là on touche à des questions qui sont qui je considère moi, absolument passionnantes. Bon, et là pour le coup, comme on ne va pas pouvoir tout aborder tout à l'heure, ça me permet peut-être de développer certains éléments. Alors je voudrais toucher à deux questions. Bon, la première, c'est que il y a une question générale de la relation entre la science et puis la capacité à maîtriser les effets possibles de la science. Ça se mélange avec la société que nous connaissons, avec les multinationales, etc., sur lesquelles je vais revenir. Mais c'est une question particulière dans l'histoire. Alors vous avez décrit une évolution. Je ne suis pas absolument sur cette description-là. La science et la technique enfin, de mon point de vue, hein, la science et la technique ont vécu pendant des millénaires d'une manière séparée. Alors, pas vraiment séparée, mais fondamentalement séparée. Par exemple, les techniques agricoles n'étaient pas des conséquences de savoir scientifique. L'idée même de savoir scientifique sont relativement récentes. On les date à certains endroits, on débattra peut-être tout à l'heure, mais ça a vécu de manière vraiment séparée. Bon. Et ensuite, l'idée que de la connaissance générale, chez Aristote, il n'y a strictement aucune conséquence technique. Aucune. Alors, il dit des choses justes et beaucoup de choses fausses, hein, par ailleurs. Mais enfin, bon, l'idée générale n'est pas liée à la technique à proprement parler. Les deux éléments commencent à converger à l'époque de Galilée. Donc, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle récent, mais c'est quand même relativement récent. Galilée ne peut pas faire ses expériences. Donc, vous avez parlé de l'expérimentation. L'expérimentation nécessite des outils techniques. Jusque-là, il n'y en avait pas. Aristote ne faisait pas l'expérimentation, par exemple. Ça lui semblait pas indispensable. Et Galilée, sans la lunette astronomique, il ne peut rien faire. La lunette, ce n'est pas lui qui l'a construite, mais il apprend des Hollandais. Mais ils commencent à avoir, dans ce sens-là, donc des relations techniques qui soutiennent la science, mais surtout l'élément fondamental, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la technique passe, pour toute une série de raisons, de plus en plus fondamentalement sous la domination de la science. C'est-à-dire que l'essentiel des innovations techniques majeures, parce qu'il y a des innovations techniques, il y en a par millions, mais les majeures dépendent de découvertes scientifiques fondamentales. L'informatique, par exemple, il y a deux racines. Il y a la machine de Turing, c'est-à-dire les mathématiques. Ça, ce n'est pas de la technique, c'est autre chose. Et puis, il y a le transistor. Et le transistor, c'est la mécanique quantique, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'application informatique pendant un certain temps, mais qui est ensuite dans les processeurs, etc. Et ce mélange-là, ce qui s'appelle donc maintenant, ce que vous appelez, ça je suis d'accord, la technoscience, est une production relativement récente qui mélange ces deux éléments. Est-ce que ça, c'est la caractéristique du capitalisme? C'est le second point sur lequel je vais revenir. C'est une question difficile à résoudre. Autrement dit, si on se débarrasse des multinationales, c'est la seconde question que je vais aborder, est-ce qu'on se sera débarrassé de cette question? Ben, ce n'est pas si simple. Voilà. Alors c'est une question qu'il faut prendre le temps, je sais que ce n'est pas le plus urgent, mais qu'il faut prendre le temps de débattre, parce que si on a la chance d'avoir votre optimisme, et donc de se débarrasser de tout ça, on rencontrera quand même ces questions-là, qui sont quand même des questions majeures dans l'histoire générale de l'humanité. Il y a une bifurcation qui s'est produite, qui aurait pu ne pas se produire, peut-être, mais enfin qui s'est quand même produite. Il y a toute une série de réflexions sur la raison pour laquelle ça ne s'est pas fait en Chine, qui était largement en avance de tous les points de vue sur l'Europe à l'époque, technique, scientifique, de tous les points de vue. Mais la création de la science dite moderne, celle de Galilée, ne s'est pas produite en Chine. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent ça depuis très longtemps. Pourquoi ça s'est pas, comme d'ailleurs le capitalisme ne s'est pas développé en Chine. Pour quelles raisons, de quelle manière, pourquoi ça s'est fait comme ça? Bon, donc ces questions-là, peut-être qu'on abordera un tout petit peu sur le fond tout à l'heure, mais mettons ça de côté, c'est des questions qui dépassent d'un certain point de vue les questions qui nous travaillent ici fondamentalement. Alors, deuxième chose, ça c'est l'autre point de vue, vous avez un point de vue optimiste, je suis heureux, parce que les solutions sont possibles, ça c'est vrai. Bon, enfin c'est vrai, tout le monde ne dit pas ça. Hein. Mais moi, je partage ce point de vue. C'est bon, pas tout le monde autour de moi, il y a des gens qui sont beaucoup plus pessimistes. Moi je considère, quand on regarde par exemple les travaux de Negawatt, on voit que, bon, Negawatt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qui essaient de savoir quelles sont les alternatives énergétiques. Ça ne concerne presque que l'énergie, parce qu'il y a aussi un peu d'agriculture dedans. Bon, mais les conditions sociales qui permettraient que ça agisse, Negawatt dit à chaque fois, il n'y a pas de problème. Ça peut se faire, mais à la lecture de chaque page, on regarde ce qu'il faudrait comme bouleversement de la société. Et c'est ce second point-là, pour ne pas être long, sur lequel je voudrais insister. La démocratie, c'est compliqué. La citoyenneté, c'est compliqué. La démocratie et la citoyenneté, quand il existe des multinationales qui font peser le poids du capitalisme mondial, ça n'est pas possible. Alors ça, c'est une grosse question. C'est encore l'autre. Donc il y a des raisons, des questions générales, et puis à celle-là. On ne peut pas avoir un système démocratique quand le pouvoir est dans les mains de gens, d'abord d'une minorité qui a le pouvoir global, et en plus, dans le seul moteur, et non pas évidemment ni le bien de l'humanité, évidemment, ça part par définition, mais de faire en sorte de faire du fric avec du fric, et s'ils pouvaient se débarrasser, alors là, évidemment, ils produisent des choses absolument... absolument désastreux, etc. Mais en réalité, fondamentalement, si vous pouvez se débarrasser de tout ça et faire du fric avec du fric, ils le feraient. C'est la financiarisation générale. Donc ça, c'est une question qui devrait nous travailler quand même beaucoup plus. Parce que, alors d'accord, les primaires, ça c'est vrai, il y a les éléments de poids démocratique où les gens veulent prendre le poids démocratique dessus. Et bon, écoutez, enfin, chacun a son opinion sur ça, donc je ne vais pas faire trop de politique sur ça maintenant, mais essentiellement, ça ne touche pas à la question de fond. Enfin, les premières socialistes, au moins. Enfin, les autres, c'est plus compliqué, disons, pour la première écologiste, c'est vrai. Mais pour la première, tout en mettant un tout petit peu Montebourg de côté, mais dans le dernier débat, je ne vois pas en quoi on se débarrasse du poids majeur de ça.
L'intérêt de la population.
Mais je suis entièrement d'accord. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais souligner, parce que c'est encore une autre question qui me travaille, c'est que le point que vous soulignez les uns et les autres sur la maîtrise de l'avenir, chose que vous avez dite, là, votre fille, etc., c'est un problème totalement nouveau. Jusqu'à maintenant, les populations se sont toujours mobilisées en fonction de choses qui leur étaient directement insupportables et accessibles. révolution française, d'autres révolutions, insupportables et accessibles. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est obligé, les gens sont obligés de se mobiliser pour quelque chose qui se passera peut-être plus tard. Eh bien, c'est tout à fait nouveau. Jusqu'à maintenant, les seules choses qui ont permis la mobilisation de parties de l'humanité dans ce sens-là, c'est les religions. Parce que l'avenir, plus tard, on fait quelque chose maintenant, mais ce sera plus tard dans le ciel, etc. Bon, c'est pas ça que vous avez dit, c'est pas ça que je dis. C'est une question nouvelle qui explique quand même toutes ces questions-là. C'est-à-dire que malgré que les gens... Il y a une sorte de dissonance cognitive pour ceux qui connaissent ce terme. C'est-à-dire que les gens peuvent très bien savoir que c'est très mauvais de fumer et continuer à fumer. Bon. Et ben, les populations que nous avons, ça, on finit par les convaincre que ça va être terrible si on continue comme ça, si on ne prend pas les choix maintenant, pour dans pas très longtemps, mais quand même très longtemps, 20, 25 ans. C'est un problème nouveau qui suppose une mobilisation citoyenne, politique exceptionnelle. Et grosso modo, si, pour ceux qui sont intéressés à ces questions-là, il y a des travaux de Luc Boltanski, qui est un sociologue. Lui, il indique que ça n'est soluble que dans le cadre d'une révolution générale, c'est-à-dire que dans lequel il y a un bouleversement qui prend l'ensemble de la société. Et quand on fait une révolution générale de l'ensemble de la société, les gens se disent, bon, après tout, bâtissons une nouvelle société et donc débarrassons-nous de toutes les questions que vous avez posées, si on peut le faire. Et on peut le faire, ça c'est vrai.
Alors moi, il y a deux mots que Monsieur le Maire a dit tout à l'heure, deux mots clés, c'est-à-dire optimisme et indigné. C'est ça qui m'a donné envie d'intervenir, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une journée exceptionnelle, il y a quand même la journée mondiale des indignés. C'est la première fois que ça se produit dans le monde, un peu partout sur la Terre. Aujourd'hui, il se passe quelque chose, on connaît des indignés, on connaît des indignés d'Espagne, il se passe quelque chose aux États-Unis, ce qui est quand même assez formidable. Ce matin, j'ai vu aussi qu'en Allemagne, je suis d'origine allemande, il se passe quelque chose à Francfort devant la Banque Centrale Européenne, il se passe quelque chose aujourd'hui à Berlin, la capitale de l'Allemagne, devant le gouvernement allemand, pardon. Il se passe quelque chose en Italie, il se passe quelque chose un peu de partout. Et nous, on... Pardon ? Oui, moi je trouve que c'est quand même assez formidable, parce que là actuellement on va quand même droit vers une catastrophe à tous les niveaux, on va à une catastrophe écologique, on va à une catastrophe humaine, on va à une catastrophe sociale, et je pense qu'on est à un stade où il y a beaucoup de gens qui prennent conscience qu'il faut faire quelque chose. Bon, je suis optimiste. Mais pour être optimiste, il faut quand même faire quelque chose. Il ne faut pas attendre tranquillement que le système va s'écrouler. Parce qu'il faut, je rappelle que les indignés des États-Unis, ils s'appellent les 99%, parce que nous, on est quand même la population. Il y a 1% de la population mondiale qui gouverne tout, qui maîtrise tout, sur le dos de 99% de la population. Alors, il y a quand même 1% de la population mondial qui se met plein dans l'approche, et il y a 99% de la population qui subit, en quelque sorte. Et c'est pour ça que les indignés en Amérique, ils s'appellent les 99%. Et déjà, il faut cette prise de conscience-là, que nous, ensemble, on peut faire quelque chose. Comme a dit Samy tout à l'heure, il faut vraiment que ce soit tout le monde qui se met debout, qui se met en marche, et qui dit on ne peut plus continuer comme ça, parce que si le système tel qu'il est, on va droit à la catastrophe, il faut vraiment tout changer.
Oui, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voulais revenir sur la question des multinationales en lien avec le capitalisme. Alors, il y a peut-être un espoir, parce qu'on sait que tout ce qui tend vers le gigantisme se fragilise énormément, et à un moment donné, ça ne marche plus, ça ne peut plus marcher. Et donc, je pense que s'il y a un mouvement citoyen qui est suffisamment fort, les multinationales peuvent être mises en déséquilibre. On l'a vu par le passé pour certaines... Ben justement, si on n'a pas d'OGM en France ou en Europe... Non, en France, pardon, pas en Europe. En Europe, il y en a. Y en a. Donc, si on n'a pas d'OGM cultivés en France, parce que malheureusement, il y en a énormément qui rentrent et qui sont consommés en France. C'est bien parce qu'il y a eu des mouvements citoyens qui ont fait en sorte que les OGM ne soient pas cultivés. Par rapport au nucléaire, alors, en entendant parler André, et puis vous aviez l'air de dire que c'était récent, la mobilisation par rapport au nucléaire. Même avant Tchernobyl, il y avait quand même des mouvements citoyens qui luttaient contre ça. C'était l'époque où il y avait ce qu'on appelait la guerre froide, où là, la menace d'avoir un anéantissement de notre planète n'était pas liée à une explosion d'une centrale nucléaire qui fabrique de l'électricité, mais c'était une guerre atomique entre les deux superpuissances de la planète. Mais je veux dire, ça fait quand même donc au moins 40 ans qu'il y a des citoyens qui se mobilisent là-dessus. Et la troisième chose sur laquelle je voulais venir, c'était par rapport à la religion. Vous avez dit, par le passé, en fait, le seul système qui a permis d'influer sur la société à grande échelle, si je ne me suis pas trompée, c'est la religion. Enfin, disons que la religion est un moyen pour pouvoir influer à grande échelle sur la société. Et donc la religion, c'est ce qui relie. Bon, c'est vrai qu'après, il y a tout ce qu'il y a derrière au niveau croyance, etc. Mais si on reprend, qu'est-ce que c'est qui relie aujourd'hui notre société, les membres de notre société? Bon, Pierre fait le geste de l'argent, mais j'étais en train de penser à ces nouvelles technologies. Donc, c'est parti de la télé, mais actuellement, bon, c'est Internet et c'est tous ces moyens de communication. On sait le rôle qu'ont joué les réseaux sociaux dans les révoltes ou les révolutions du printemps arabe. Moi, la télé, bon, je trouve que c'est un moyen de relier les gens, mais qui, pour l'instant, est perverti, fortement perverti. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen aussi, à travers, c'est quand même un outil qui pourrait permettre de faire de l'éducation scientifique, de l'éducation citoyenne. Est-ce que là aussi, il n'y aurait pas quelque chose, puisqu'on n'arrive pas à la supprimer, cette télé, il n'y aurait pas un moyen de dire, ben, on va l'utiliser pour faire passer nos idées aussi. Voilà.
Je crois qu'il y a Jacques-Marie qui voulait.
Oui, je voulais rebondir sur deux idées qui sont passées. C'est il faut une révolution, et pour faire une révolution, pour savoir où on va, il faut savoir de où on vient. La révolution, c'est pas revenir à la bougie, hein, faut abandonner le nucléaire, c'est pas revenir à la chandelle ou au rouet. C'est trouver d'autres solutions. La vie, c'est que de la consommation d'énergie, c'est de trouver d'autres consommations, d'autres formes de consommation pour maintenir notre espèce parmi la biodiversité de la planète. En gros, c'est. Mais comment est-on arrivé là? Pourquoi Homo sapiens occidentalis et pas chinensis est arrivé à ce système absolument surprenant de technostructure et de financiaro-structure aussi? Je pense que c'est une histoire de dogmes qui se sont mis en place petit à petit autour de quatre livres. Alors le premier, c'est la Bible, qui est restée très, très introvertie. Le peuple hébreu la religion juive n'est pas une religion prosélyte. Mais le deuxième, c'est l'Évangile, qui est devenu prosélyte au moment de la reconnaissance par l'État romain du monothéisme. Jusqu'à ce moment-là, l'empereur était un dieu, mais il y avait un polythéisme, donc une possibilité de séparation des systèmes dans la tête des gens. On pouvait révérer la nature, on pouvait révérer le printemps, la chasse, d'autres. Je ne suis pas un spécialiste des religions, mais enfin, bon, il y avait une multiplicité de choses qu'on pouvait révérer. Quand on passe avec Constantin au monothéisme, on devient strictement dogmatique. Dieu créa l'homme le septième jour, non, c'est le sixième, je ne sais plus. Et puis le septième, c'est la femme, non, c'est pas ça. Enfin bref, c'est vraiment... C'est la septième, c'est le repos. Alors donc voilà, donc, mais ça n'a pas d'importance. On voit bien que c'est extrêmement simplifié, ça n'a pas de sens. Il y a encore des gens qui aujourd'hui croient à ce créationnisme. Alors qu'on sait que depuis très peu de temps, par exemple, que Néandertal n'est probablement pas disparu, qu'il est présent dans, en nous, dans nos gènes. Non, c'est peut-être moi, mais parce que mais ou voilà donc mais on sait que tout ça c'est extrêmement la vie, c'est un équilibre qui se déséquilibre et se rééquilibre en permanence. C'est pas dogmatique. Le troisième livre, bon, c'est le Coran, donc qui est lui extrêmement encore plus guerrier, encore plus clair, quoi que les croisades, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. On a une certaine part dans ce système un peu brutal, on va dire. Et le dernier livre que je vais évoquer, c'est le dogme technoscientifique. On ne peut pas aujourd'hui facilement s'élever en disant l'énergie nucléaire, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire des déchets et des centrales à démanteler? Oui, mais dans les OGM ou dans la chimie agricole, mais vous voyez bien, ça marche. La formule mathématique de transmission du roundup dans les eaux, on l'a calculée sur le papier, il ne doit pas y en avoir dans les eaux des nappes phréatiques. Or, voilà. Mais quand on dit que ce dogme scientifique est une aberration, donc le point de rupture, c'est la religion monothéiste. Le deuxième point de rupture qui a permis à ces technosciences de s'implanter grâce à la financiarisation au capitalisme, c'est la réforme. Avant, la capacité des banques à exister, les prêts d'argent avant la réforme étaient interdits. La religion catholique avait au moins ce mérite d'éviter l'emprunt sur le futur. Des systèmes bancaires. Et aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose d'assez extraordinaire, que les banquiers, alors les traders, arrivent à vendre des choses qu'ils n'ont pas encore achetées. Et est-ce que les multinationales n'existent pas à cause de ce système? Bon, je suis très particulièrement une multinationale qui s'appelle Monsanto. Bon, c'est normal, je suis trésorier de combat Monsanto. Donc cette semaine, Monsanto vient de sortir son futur bilan 2011, qui apparemment serait en diminution des pertes. Ce n'est pas en augmentation des bénéfices, ni passage de pertes à bénéfices, c'est diminution des pertes. Et ce n'est qu'une prévision. Et aussitôt, la bourse de New York donne plus 10% à l'action de Monsanto. Et avec des pertes, ils arrivent quand même à distribuer du dividende. Donc il y a quand même quelque chose qui dans ce système-là. Mais si vous dites, c'est un dogme, vous racontez des conneries, comme les créationnistes racontent. Alors que au moment de Jésus-Christ, on ait raconté ces choses un peu simplistes, je peux comprendre, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Eh bien, on vous prend pour un marginal au mieux. Et au pire, un malade mental, quoi. Donc,
voilà, je voulais aussi revenir sur quelque chose, quand même. On a mentionné Negawatt avant, et ça m'a fait pas mal tiquer un article dans Le Monde il y a quelques jours, où il y avait la présentation d'une sorte d'étude qu'ils ont fait dans le cadre de la remplacement du nucléaire, quoi. Et en fait, c'était marqué, donc, évidemment, aller vers les énergies renouvelables. Et il disait qu'il pensait que le plus importante source d'énergie renouvelable, ce sera le bois. Alors, il s'avère que, enfin, nous, on est assez actifs au niveau d'un réseau qui s'appelle le réseau pour les alternatives forestières. Nous regardons beaucoup ce qui se passe par rapport à l'exploitation forestière en France. Et l'arrivée de bois énergie actuellement, un peu comme les agrocarburants à la limite à l'époque, semblait une très bonne idée. Or, il est probable, selon beaucoup de gens, que ça pourrait amener à une destruction d'une bonne partie de nos forêts plus anciennes, à des plantations d'arbres pour l'énergie. Il y a des robiniers maintenant qui sont génétiquement modifiés, qu'on coupe tous les 3 ans, machinalement avec des abatteuses immenses. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est complexe et la vigilance est extrêmement nécessaire. Parce qu'on peut penser que Bois Énergie, je pense qu'en général, beaucoup de gens trouvent que c'est une très bonne idée. Évidemment, à petite échelle, dans une petite commune comme ici, où ça peut être très très bien. Mais si énormément de grandes structures à Marseille, Aix ou ailleurs commencent à s'installer avec le bois énergie, qu'il faut absolument trouver le bois nécessaire pour ces installations, ça va poser des très très gros problèmes. Donc moi, c'était un gros gros bémol que j'avais sur ce fameux rapport de négawatts. On a mentionné le photovoltaïque avant, qu'il y a aussi des, moi je ne connais pas assez, mais des zones d'ombre par rapport au coût énergétique de la production, les déchets par la suite, etc. Donc c'est juste qu'il faut éviter les solutions simples, ou simplistes, disons.
Oui, en même temps, négawatt, c'est un bouquet énergétique, hein. Et puis on a des exemples hein, chez nos voisins. Moi je suis allé 2 fois au Vorarlberg en voyage d'études. Le Vorarlberg qui a donc refusé le nucléaire il y a 40 ans, il devait y avoir une centrale nucléaire qui devait se faire juste à la frontière entre la Suisse et le Vorarlberg. Ils ont donc refusé cette centrale, ça avait fait l'objet de grosses manifestations à l'époque. Ce refus du nucléaire à l'époque les a obligés à trouver des solutions alternatives. Et ça, bon, ça a été 45 ans de travail. Sauf que là, aujourd'hui, le Vorarlberg est autonome en énergie en 2015, sans nucléaire. Donc, c'est possible. Et c'est possible en relativement court terme. Ça veut dire que parallèlement, il y a eu des efforts qui ont été considérables. Il y a du bois énergie, mais les gisements sont calculés, les utilisations sont calculées en fonction des gisements et sont renouvelées. J'ai vu, entre autres, une commune de 20 000 habitants avec une seule chaudière. Une chaudière pour chauffer 20 000. J'ai la photo là, si vous voulez, dans mon téléphone. Une seule chaudière qui chauffe 20 000 habitants. Une seule chaudière à bois, avec un réseau de chaleur qui fait, je ne sais plus, il doit faire 5 km le réseau de chaleur. Donc il y a des solutions qui existent. Et là, pour le coup, Vorarlberg, ils sont vraiment très en avance. J'ai organisé un voyage avec les élus de la communauté de communes du Briançonnais, justement pour que les maires voient ce qui se passe ailleurs. Ils sont revenus, ils étaient scotchés, ils n'en revenaient pas. Je veux dire, tous les bâtiments publics, tous les lycées, les collèges, les mairies, tous ces bâtiments sont en passif. C'est-à-dire que zéro consommation énergétique. J'ai vu un lycée où ils mettent le chauffage à 5 heures du matin le lundi matin. Ils l'éteignent à 8 heures pour la semaine. C'est la présence des élèves qui chauffe le bâtiment en ventilation double flux. Et en même temps, tout l'air entrant est filtré. Donc le taux de CO2 est calculé en permanence. En fin de matinée, vous avez le même taux de CO2 qu'en début de matinée. Tout est filtré, mesuré. Tous les toxiques aériens sont filtrés, c'est très impressionnant. Et les bâtiments, aujourd'hui, ne sont pas seulement passifs, ils sont en bio. Donc le bâtiment, le surcoût d'un bâtiment passif, il est de 3,5% et le surcoût en bio, il est de 1%. Alors c'est sûr, hein, c'est 40 ans de travail avec tout un tissu industriel à la porte qu'ils ont organisé. Tous les bâtiments sont en bois local, bois, verre et béton. Et puis les isolants, ce ne sont que des isolants naturels. Donc il n'y a pas de colle, il n'y a aucune mousse de polyuréthane. C'est très impressionnant. Et donc ça, il suffit de le mettre en œuvre. Donc c'est du travail, c'est sûr. Hein. La filière bois doit être redynamisée, doit être réorganisée. On doit justement mesurer les ressources en fonction de nos besoins. Mais bon, après, je crois que c'est l'objet d'un autre atelier sur l'énergie, mais on pourra en reparler tout à l'heure. Mais il y a des solutions en tout cas.
Moi, je ne sais pas trop quelle durée d'émission, rencontre que vous avez prévue. Moi, ça ne me gêne absolument pas de continuer. Mais voilà.
Oui, bon, de toute façon, on reprendra. Enfin, nous, on commence à 18h, donc voilà, on a jusque-là. Moi, ce que je voulais dire, justement, pour reprendre un petit peu, c'est que depuis mercredi, donc dans le cadre du festival Science en Bobine à Trescléou, on a débattu sur, effectivement, toute une palette de sujets. Et j'aurais envie de dire, de toute manière, d'autres recherches sont possibles. C'est-à-dire que, effectivement, pour recentrer un peu sur le choix des citoyens, hein, qui est le sujet d'aujourd'hui, je pense que dans la salle, il y a certainement autant de personnes que d'idées sur qu'est-ce que je pourrais faire et voir qu'est-ce que je fais. Et je serais assez intéressé de voir parmi ceux qui veulent intervenir dans quel domaine ils pensent agir, ils pensent faire, parce que je suis persuadé que on a parlé de la capacité d'expertise des citoyens, mais le premier endroit souvent où on est expert, c'est dans son boulot ou dans un domaine dans lequel on travaille ou on agit. Et pendant longtemps, les luttes sociales, j'aime pas tellement ce mot parce que ça limite, je trouve, les enjeux sociaux, pendant longtemps, se sont un peu combattus entre elles. Alors que petit à petit, j'ose espérer que la convergence dont on a parlé, la convergence des nanotechnologies, des bits, peut-être qu'on pourrait la construire. On pourrait la construire. C'est, de toutes les manières, c'est un peu le but aussi de ce festival, c'est de construire ces convergences, de créer un peu ces réseaux aussi, parce qu'un festival, il doit vivre après. Il doit déboucher après. Donc, moi, je vous engage, en fait, si vous avez des sujets qui n'ont pas du tout été débattus dans le festival, et particulièrement s'ils n'ont pas été débattus, je vous engage vraiment à donner des pistes qui, ne serait-ce, pourraient nous donner des pistes, nous, pour l'année prochaine.
Peut-être qu'on n'a pas du tout parlé du... Pardon. Peut-être qu'on n'a pas du tout parlé du solaire, et on peut être frappé quand même que, moi, vous parliez d'autres pays. C'est vrai que lorsqu'on va dans les pays méditerranéens en voyage, on s'aperçoit que toutes les maisons sont équipées de chauffe-eau solaire, et chez nous, très peu, alors qu'on est une région particulièrement ensoleillée ici, au moins. Et ça, moi, je suis très frappée de cette différence. Et bon, je crois savoir qu'il y a de gros problèmes. Enfin, c'est difficile au niveau des investissements financiers, ça coûte cher. Mais en fin de compte, peut-être que... Voilà, moi, c'est une question qui me vient toujours à l'esprit lorsqu'on parle de l'énergie. Mais je ne suis pas forcément compétente, bien sûr.
Le thermique solaire ne coûte pas très cher. Ce qui coûte cher, c'est l'électrovoltaïque. Ça, c'est parce que c'est compliqué à construire. Le thermique solaire, c'est une boîte noire avec des tuyaux et un carreau par devant. La seule difficulté du thermique solaire, c'est le stockage de la chaleur. Si vous avez une trop grande surface l'été, par rapport à pour avoir une autonomie l'hiver. L'hiver, on en capte moins, donc c'est le seul problème technique qui se pose pour le thermique. Par contre, sur le solaire photovoltaïque, si vous voulez, donc Poitou-Charentes, on a reçu des subventions importantes de la région Poitou-Charentes pour installer des toits relativement importants, 70 mètres carrés dans mon cas, ce qui est quand même déjà une belle puissance. Eh bien, il a été raccordé mi-2008, au mois d'avril ou mars ou mai 2008, j'ai plus un souvenir précis, et je n'ai commencé à vendre de l'électricité qu'en mars 2011, parce que ERDF, il manquait un papier, il y avait un truc qui n'allait pas, j'avais pas transmis l'autorisation de travaux, alors que c'était une réflexion d'un toit. Donc, si vous voulez, on revient là sur un fonctionnement des lobbies qui pose des questions. Tandis que quand vous faites un solaire thermique, vous n'avez rien à demander, si ce n'est la pose des panneaux. Donc EDF, qui est bien évidemment pro-nucléaire, verrouille les dossiers. Quoi. Et là, dernièrement, y a eu un moratoire d'un décret, ce qui est assez extraordinaire. On est presque dans la même situation que des autorisations provisoires de vente que j'exprimais tout à l'heure. L'État a auto-suspendu sans manifestation complémentaire. C'était même une simple lettre du Premier ministre disant pour le moment, pendant 3 mois, on va arrêter les nouveaux travaux. Et en fait, ça n'a pas duré 3 mois, ça a duré 6 mois. Donc les entreprises qui avaient des contrats en cours, elles ont quasiment toutes fait faillite.
J'ai pas abordé le sujet du solaire parce que comme c'était ça sera sans doute entamé sur le prochain débat. La commune de Puy-Saint-André est la 3e commune de France en solaire thermique, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un mètre carré de capteurs thermiques par habitant. Donc c'est une démarche que j'ai entamée depuis 20 ans sur le solaire. Mais déjà avant les capteurs thermiques, il y a déjà le bioclimatisme, c'est-à-dire la structure même de la maison qui peut elle-même être un capteur. Donc ça, c'est bien connu, ça s'est fait, ça fait 100 ans qu'on fait du bioclimatisme, sauf qu'aujourd'hui, il y en a peu qui l'utilisent malheureusement. Donc c'est la première chose à faire, c'est-à-dire que de faire que la structure, l'organisation, l'architecture même de la maison fasse qu'elle capte un maximum de chaleur et qu'elle ait un minimum de déperdition. Le problème, à la limite, c'est plus les surchauffes qu'autre chose. C'est pour ça qu'il y a des techniques qui protègent en particulier la façade ouest pour qu'il n'y ait pas de surchauffe. Donc c'est un travail sur les volumes, mais ça se fait très bien, ça ne coûte pas plus cher qu'une maison normale, c'est juste penser la structure du bâtiment. Ensuite, en effet, il y a des équipements qui peuvent s'adapter dessus, en particulier en solaire thermique à travers des capteurs. C'est pas très cher, non, c'est pas très cher. Le temps de retour, il est entre 6 et 8 ans, quelque chose comme ça, sachant que aussi les entreprises, elles font leur beurre. Elles savent qu'il y a des subventions, du coup, elles augmentent les tarifs. Donc, il y a un petit jeu aussi des entreprises à ce sujet. Mais en 6-8 ans, un capteur thermique, d'ailleurs, qui peut non seulement chauffer votre eau chaude sanitaire, mais chauffer aussi votre dalle. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'installer des capteurs thermiques à la conception du bâtiment. Parce que ça vous avez un plancher basse température alimenté par le solaire et vous avez votre chauffe-eau aussi alimenté par le solaire thermique. Ça fonctionne très bien. Ma maison, elle est faite depuis 15 ans comme ça. Je consomme à 1500 mètres d'altitude 2 stères de bois en complément de chauffage. Donc j'ai 100 euros de chauffage par an à 1500 mètres d'altitude. Donc vous imaginez. Et puis ensuite, il y a en effet le photovoltaïque qui n'est pas une énergie géniale. C'est-à-dire que par rapport à l'énergie grise qu'elle nécessite de mettre en œuvre, ce n'est pas une énergie exceptionnelle, loin de là. Le plus intéressant, c'est l'hydraulique. Mais le solaire photovoltaïque, ce n'est pas exceptionnel. Sauf que le jeu des subventions, encore une fois, et là, ça rejoint aussi tout ce qu'on disait tout à l'heure sur le capitalisme, etc., etc. Il y a une perversion aussi qui se met en place par rapport à ça. Et donc, on a créé une bulle avec le photovoltaïque. Et puis les gens se sont lancés à fond dans cette bulle. Ceux qui sont passés au bon moment, tant mieux pour eux. Et je fais partie de ceux-là parce que je vends en effet de l'électricité à 60 centimes du kilowattheure, alors que l'électricité qu'on achète, c'est 12 centimes. Le gouvernement n'avait aucunement l'obligation de mettre à 60 centimes. S'ils avaient mis un tarif raisonnable de prix d'achat, ils n'auraient pas mis en place le moratoire après parce que tout le monde s'est jeté dessus. Puis en plus, il y a eu les fermes photovoltaïques. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais c'est pour vous dire, le photovoltaïque, ça reste une énergie intéressante, mais qui n'est pas exceptionnelle. Aujourd'hui, sur ma maison, je produis l'équivalent de 3 maisons. Je produis 4000 kWh, j'en consomme 1500. Donc je permets aux 2 maisons d'à côté de la mienne de bénéficier d'électricité photovoltaïque. Voilà. Et comme je suis de toute façon branché sur le réseau, je n'ai pas intérêt à utiliser l'énergie que je produis, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il me faut des batteries pour stocker, alors qu'en fait, les batteries, c'est polluant, ça a une durée de vie limitée. Donc comme je suis sur le réseau, je balance sur le réseau. En plus, EDF me le rachète 6 fois plus que ce que je l'achète. Donc bon, je balance sur le réseau et l'électricité part au plus proche. Mais ce qui veut dire aussi que les grosses centrales photovoltaïques, nous, les écolos, on y est totalement opposés. Parce que d'une part, en général, c'est sur des sites propres, c'est sur des sites agricoles. Donc ça, on y est totalement opposés. Et en plus, on est pour une décentralisation de la production énergétique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des petites centrales démultipliées au plus proche du consommateur. Donc là-dessus, on est au clair depuis longtemps et c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on met en place.
Il y a Michel Jean, je crois, qui voulait dire. Moi, je voulais juste avant dire une petite chose. C'est intéressant à savoir pour le solaire thermique. En tout cas, nous, à Liman, nous avons travaillé avec une association suisse qui, en fait, organise des ateliers de production de panneaux de solaires thermiques qu'on fait soi-même à la maison. On a fait des formations chez nous, il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. C'est quand même aussi intéressant à savoir qu'un certain nombre de gens pourraient se mettre ensemble. Ça réduit les coûts, c'est beaucoup plus intéressant. On peut carrément fabriquer les panneaux soi-même, quoi.
Je voulais revenir sur le... Ça marche là ? Bien. Je voulais revenir sur en fait le thème de cette table ronde, c'est-à-dire science et démocratie. Alors, disons, on a parlé de la responsabilité, de l'implication du citoyen, bon, ce qui sont des choses difficiles à concevoir et à réaliser. Mais déjà, prenons les choses dans l'état, et je voudrais ici dénoncer la collusion du politique et du financier. Nos instances universitaires, ainsi que le CNRS, bon, sont régies de manière à peu près démocratique, au sens où, d'une part, les chercheurs étaient jugés par leurs pairs, éventuellement avec l'avis d'ailleurs d'industriels, et les laboratoires aussi étaient jugés de la même manière. Bon, ça se faisait via des instances dont le nom ne vous intéresse pas, Comité national, CNU, etc. Or, le gouvernement a trouvé absolument insupportable que la science puisse être évaluée par les pairs eux-mêmes. Et en plus, il y a derrière l'idée que toute activité qui ne rapporte pas de l'argent à court terme est insupportable et inutile au sens financier. Donc on a assisté à des restructurations ces dernières années, c'est-à-dire que, on ne pouvait pas faire péter complètement ces instances démocratiques, parce que ça aurait vraiment soulevé un tollé extraordinaire, on a collé par-dessus d'autres instances. Et dont les experts sont désignés de manière plus ou moins obscure, où la présence des lobbies, elle apparaît pour ceux qui connaissent, et où finalement les crédits et qui sont distribués sont aussi distribués de manière obscure. Alors il y a eu un mot qui a fait son apparition, un mot clé, qui est très beau, excellence, qui peut rassurer tout le monde, qui peut faire plaisir. Mais en fait, derrière, qu'est-ce qui se cache? Il se cache aussi des restructurations. Bon, ça ne se cache pas. Donc ça a obligé le secteur scientifique à se restructurer. En disant, avec des manipulations qui sont de pures circonstances, de façon à rentrer dans un cadre où on pourrait obtenir des crédits, où on pourrait obtenir de la respectabilité, de la reconnaissance. Bon, c'est tout des choses qu'on appelle l'ABEX, IDEX, etc. Bon, chaque fois qu'il y a un X, c'est excellence. Ce sont des structures qui sont extrêmement technocratiques. Par ailleurs, une des conséquences immédiates de ces choses-là, c'est que maintenant un chercheur, il passe 3 mois de son temps à faire le représentant de commerce, à monter des dossiers pour obtenir des crédits. Et là, donc à travers ces structures où les lobbies pointent leur nez, où elles ont leurs représentants, s'exerce une pression sur les directions de recherche. Donc de ce point de vue-là, voilà comment la finance et le pouvoir opèrent une véritable collusion, et voilà comment la démocratie échappe déjà aux acteurs de la recherche.
Pour continuer sur la même thématique, 2010 était l'année de la biodiversité. Vous en avez tous entendu parler, cette biodiversité qui va conditionner notre façon de vivre à l'avenir. l'État et les scientifiques s'étaient occupés de biodiversité depuis longtemps. Il y avait des structures en France qui existaient. Il y avait le Bureau des ressources génétiques pour tout ce qui concerne la biodiversité liée à l'agriculture, donc les races animales et puis les plantes cultivées, et également les micro-organismes étaient travaillés par ce Bureau des ressources génétiques. Et puis, il y avait l'Institut français de la biodiversité. Donc, c'était deux organismes publics, deux établissements publics. Ils ont été regroupés, il y a 2 ans, dans une fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et donc là, on voit le mot fondation va faire appel à des capitaux privés. Et on voit fleurir des appels d'offres du style l'appel d'offres lu pour les fruits. Voilà, des choses comme ça. Parce que c'est lui qui est intéressé pour peut-être redorer son image de marque. Et donc, il va financer des recherches sur les fruits ou sur les ressources génétiques liées aux fruits. Voilà. Et moi, je trouve que ça, c'est scandaleux. Et j'avais demandé la parole pour intervenir sur un autre volet. C'est la relocalisation des actions. Il y a un film qui a eu pas mal de succès l'année dernière qui s'appelle « Solution globale pour un désordre général ». Alors, je dis... Global, pardon. Solution locale pour un désordre global. C'était un peu pour dire qu'il faut revenir à plus d'autonomie localement. Que ce soit pour l'énergie, on a parlé d'énergie tout à l'heure, ce qui coûte cher aussi dans l'énergie, c'est toutes les pertes qu'il y a quand on la transporte. Donc on a tout intérêt à avoir une multitude de petites structures qui la produisent et au plus près des lieux de consommation. Or, en France, on a un système qui est très centralisé et qui préfère avoir des grosses structures de production et ensuite distribuer à partir de là. Autonomie aussi par rapport à l'alimentation. Alors, on peut... le local, on peut le voir à différentes échelles. C'est vrai que ça peut être l'échelle d'une commune, ça peut être l'échelle d'un foyer, d'une commune, ça peut être une région, un territoire, mais il faut revenir à ce type d'approche parce que le fait de dépendre d'un système qui est complètement mondialisé, je trouve, fragilise les choses. L'élevage, que ce soit bovin ou porcin, qui domine en Europe, se fait sur, donc, on va dire, plutôt sur l'Europe du Nord, l'Europe du Sud étant plutôt liée au pastoralisme. Donc l'élevage intensif, plutôt sur l'Europe du Nord. Il est nourri avec, d'une part, de l'ensilage de maïs qui est produit en Europe, mais des tourteaux de soja qui arrivent d'Amérique du Sud. Ces tourteaux de soja, moi j'ai entendu dire qu'il y avait juste une semaine d'avance, en gros, pour nourrir ces milliers de vaches et de cochons qui existent. Il suffirait d'une tempête pendant 2 semaines, qui empêche les bateaux de traverser l'océan, que vont devenir tous ces animaux. C'est un exemple, moi, qui ne me paraît pas aberrant de citer. Quoi. Et du coup, je veux dire, autrefois, on disait qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, il faut essayer de pouvoir faire face à des problèmes qui peuvent advenir à un moment donné. Et là, moi, je crois qu'on s'est lié à, justement, des circuits commerciaux, à des systèmes qui font qu'on n'a plus du tout cette autonomie et on n'aura plus du tout ce repli par rapport à des phénomènes naturels qui pourraient arriver.
Hein. Juste un mot, la grève des routiers en Grande-Bretagne au moment de Madame Thatcher, elle a cédé parce qu'il y a 4 jours ou 5 jours de nourriture dans les grandes surfaces des villes anglaises. Donc voilà.
C'est juste, mais je crois que c'était Blair.
C'est Blair. Je manque de nez, donc.
Ils étaient très, 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 très embêtés. Parce qu'ils...
Ils sont, voilà. Donc,
ils ont effectivement... ils se sont rendus compte à quel point le système était vulnérable. À cause du fameux système de flux tendu, que tout le stock, c'est dans les camions. Quoi.
Voilà. On est dans un système qui est d'une vulnérabilité extrême. Mais je voulais juste faire un rebond sur les revues à relecture par les pairs. C'est l'endroit où se fait l'expertise reconnue. Si on arrive à publier dans Nature ou Science ou Environmental Health, remarquez que c'est... Désolé, c'est trois revues de anglo-saxonnes. On est reconnu. Sauf que pour arriver à pénétrer dans ce système de publication, il faut être relu par les pairs, c'est-à-dire par des scientifiques qui sont indépendants ou dépendants des multinationales. Et très dépendant des multinationales. Si vous voulez publier, je parle toujours du même produit, si vous voulez publier sur le Roundup, qui est 100 fois plus toxique que le glyphosate, vous mettez 2 ans à arriver à positionner, et c'est aucun des trois qui vous le prend, c'est une plus petite revue qui n'est pas cotée en niveau AAA, on va dire, pour parler comme Standard & Poor's, et qui est coté simplement en B. Et si vous êtes chercheur CNRS, à l'INRA ou ailleurs, si vous ne publiez pas, vous n'avez pas d'avancement ou vous n'avez pas de crédit de recherche. Hein, là, c'est note 1, 2 et 3, si j'ai bien compris. Quand vous faites de la recherche avec le réseau Semences Paysannes, vous êtes, ou Cocopelli, hein, mais c'est le RSP qui en fait avec des gens de l'INRA, vous êtes définitivement au niveau 3. Et vous ne pourrez jamais avoir d'avancement. Et quelquefois, vous n'avez même pas de place dans les serres pour faire vos expérimentations sur des blés boulangers panifiables dont on a besoin pour faire des bons pains et dont on aura probablement besoin dans le futur du dérèglement climatique comme des ressources génétiques très, très performantes parce que très vivantes et très en équilibre. Donc on est dans un système qui s'étiole petit à petit, d'où la nécessité tout à l'heure de la révolution, c'est-à-dire de faire un demi-tour, mais qui n'est pas forcément un retour en arrière.
J'aurais quand même fait encore un appel pour tous les gens qui sont autour, parce qu'on ne va pas, peut-être encore une quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas combien, mais en tout cas c'est, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore intervenues, c'est toujours bien.
Personnellement, ce sera très rapide, c'est juste pour rebondir sur ça. Machiavel dit que la République nécessite le dévouement au bien public. Et ça, c'est le dévouement au bien public. C'est une question capitale, parce que l'autogestion de la recherche par les chercheurs suppose que les chercheurs soient tous dévoués au bien public de la recherche. Voilà. Donc, républicain au sens... est-ce que c'est vrai ? C'est le seul système qu'on a pu imaginer pour faire en sorte que ce soit effectivement des pairs qui puissent juger les travaux des... Mais alors il y a les éléments qui peuvent être purement et simplement vendus, au sens, c'est une insulte peut-être, mais c'est la réalité, acheter, disons, hein, puisque pour être acheté, il faut être vendu. Voilà. Mais il y a plus que ça, malheureusement, c'est les éléments de concurrence, les éléments de pouvoir, ce sont des questions, là aussi, pour que la démocratie, donc l'autogestion, parce que ce système-là, c'est un système normalement autogéré, pour que l'autogestion puisse fonctionner, donc la République, au sens le plus fondamental du terme, il faut un dévouement au bien public qui soit extrêmement fort. Alors, c'est aussi une question que je soumets à la réflexion. Est-ce que c'est toujours possible? Comment c'est fait? Tous ces systèmes-là finissent par buter par un problème de contrôle des gens qui, normalement, ne devraient pas avoir à être contrôlés. Voilà, alors, après, qui contrôle les contrôleurs? C'est une question qui... C'est le phénomène de la bureaucratie. Hein. C'est-à-dire que les gens s'installent dans les ports d'un système apparemment démocratique pour des raisons qui peuvent être des fois, pas celles qu'on imagine, mais simplement des questions purement de pouvoir. Moi, je connais personnellement, parce que j'ai été confronté à ces questions-là proches de moi, des patrons qui volent la thèse d'une étudiante, enfin d'un étudiant en l'occurrence, pour faire en sorte que leur petite amie prenne le sujet et la recopie, enfin des choses absolument inimaginables, pour ceux qui ne connaissent pas de près. Donc c'est toutes ces questions-là. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais alors à 100%, c'est les 100% qui restent, qui demanderaient à être discutés. Voilà.
Il faut rappeler ce qu'est la fonction publique. Ça, c'est des choses qu'on a oubliées.
Je voudrais, il y a un paradoxe qui me dérange profondément. J'ai toujours cru que l'union faisait la force et au regard de ce qui se débat, j'ai l'impression que l'union fait la faiblesse. On a dit que c'était 1%, je formule avec mes mots, qui régente 99%. Donc c'est 1% qui donne le ton à 99%. Ce qui me dérange, c'est l'inertie, volontaire ou involontaire, de ces 99%. Il me semble qu'il n'y a rien de plus aisé que quand on est 99 contre 1, on puisse balayer ça d'un revers de main sans même être soufflé, sans même scier. Et là, je suis atterré. On est une poignée, peut-être, répartie des poignées, quelques microstructures réparties à droite, à gauche, qui discutent des problèmes. On voit des solutions, on entrevoit des solutions, mais la machine des 1%, qui est la plus forte, avance inexorablement vers ses propres intérêts. Aujourd'hui, si on fait le bilan de l'histoire, on a quand même eu des sueurs froides. On a eu quelques guerres nucléaires, on a peut-être échappé, je ne sais pas en quelle mesure, à peut-être quelques problèmes bactériologiques, on a les problèmes de la faim, on a les problèmes des OGM. On est 99% qui savons tout ceci, mais on n'en a aucune conscience. Donc je pense que le nombre n'est pas forcément un allié, puisque tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que le macro était fragilisé par sa taille. Eh ben, si je prends cette logique, étant donné qu'on n'est pas le micro, nous les 99% et qu'on est le macro, on est fragilisé par notre propre taille. Alors, quand quelqu'un a dit tout à l'heure, moi je vois de l'espérance là-dedans, je reste sceptique.
Je voulais rebondir par rapport à... Je pense que la proportion n'est pas de 1% à 99%. Aux États-Unis, il y a des sociologues qui ont fait des études justement sur la population, les gens qui mangeaient bio, qui avaient des petites voitures et non pas des grosses aux États-Unis, c'était quelque chose quand même aussi en termes de démarche. On pourrait dire le fameux comportement un peu plus écologiste. Et quand on leur posait la question de leur rapport avec la société, avec le politique, ils disaient, oh ben, de toute façon, ce n'est pas la peine qu'on aille voter parce que ça ne sert à rien, on est trop petit, on est minoritaire, on est 1 à 2% justement à avoir cette conscience-là. Et du coup, ils n'essayaient pas de rencontrer d'autres personnes qui étaient dans la même démarche. Et ces sociologues, en fait, ont déterminé que c'était 20 à 25% de la population des États-Unis qui avait ce type de démarche. C'est-à-dire, et chacun pensant qu'il était tout seul dans son coin à faire ce type de démarche. Et ils ont appelé ça les créatifs culturels. Donc il y a des publications qui existent là-dessus, je vous invite à les consulter.
C'est une question évidemment qui travaille tout le monde. Hein. Comment ça se fait ? Il y a très peu de gens qui ont un intérêt vital au maintien du système. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les balayer ? C'est une question majeure. Mais bon, alors moi, il faut le prendre d'une manière effectivement un peu plus approfondie. Les 1%, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas un intérêt majeur au maintien du système, mais qui en bénéficient quand même. Donc ça fait quand même quelques pourcents supplémentaires bon, qui sont là, dans lesquels on peut les gagner. C'est-à-dire si on leur dit, écoutez, bon, dans une autre société, ça ne serait peut-être pas pire. D'accord, mais eux, ils en bénéficient quand même un tout petit peu. Mais surtout, le point majeur, c'est que ce 1%, du fait qu'ils ont le pouvoir économique, ils ont aussi une multiplicité d'autres pouvoirs. Et ça, c'est la grande question. Ils ont de plus en plus une concentration du pouvoir médiatique. Le pouvoir, en l'occurrence, à part les dictatures, hein, parce que les dictatures, c'est la torture, la prison, enfin, tout ce que tout le monde sait. Mais quand il n'y a pas ça, c'est quoi le pouvoir ? C'est essentiellement la capacité à l'hégémonie, c'est-à-dire à faire en sorte de déterminer quels sont les bons problèmes. quel est le bon agenda? De quoi il faut discuter au moment où il y a l'intérêt de discuter? Par exemple, aujourd'hui, il faut discuter de la dette. Ce qui est vrai, hein, parce que c'est un gros problème. Bon. Mais il faut essayer de comment on la paye. Alors qu'on pourrait discuter de savoir d'où elle vient et de ne pas la payer. C'est aussi une autre possibilité. Mais ça, ce n'est pas possible. Parce que ceux qui décident de quels sont les bons problèmes, c'est les éléments que vous connaissez. Donc déjà, toute une partie du combat que nous menons, c'est ce qu'on fait là. C'est d'arriver à convaincre les gens que les bons problèmes, ce n'est pas, pas seulement les solutions, mais même d'abord, le bon problème n'est pas ce que nous impose ceux d'en haut, n'est pas la compétitivité, n'est pas tout ça, n'est pas la concurrence avec la Chine, c'est peut-être des problèmes, mais ce n'est pas le bon problème, les bons problèmes à poser. Alors, ça, c'est ce qui fait la nature des pouvoirs dits démocratiques, c'est-à-dire quand ils ne sont pas purement dictatoriaux. Et après, il y a une autre question qui est majeure, enfin, qui est exactement la contrepartie, c'est les mouvements des indignés, c'est que les espaces démocratiques ont toujours été extrêmement restreints. C'est que pour changer vraiment la société par un vote, c'est quand même... Enfin, je ne connais pas l'exemple, voilà, pour aller rapidement. Mais il fut un temps où le vote avait quand même une influence. Là, il en a de moins en moins. Voilà. Et ça, c'est une question. Alors, les États-Unis, c'est typique. Les gens sont allés voter pour Obama, mais c'est un renversement tout à fait récent. Et je ne sais pas s'il va se reproduire en plus. Enfin, peut-être qu'ils voteront. Obama repassera peut-être, mais avec la massivité du vote, ce n'est pas une grande certitude. Mais pendant des décennies, les gens votaient de moins en moins. Parce que quand vous avez le choix entre les démocrates et les républicains, et que les démocrates sont ceux qui sont le plus liés à Wall Street, ce qu'on n'imagine pas de France. Hein. Eh bien, évidemment qu'il y a un souci. Bon, c'est parce que ça ne change rien. Et quand vous êtes en Europe, par exemple, vous le voyez très bien. C'est-à-dire que là, ils ont mis au point une martingale absolument inouïe, qui est un système dans lequel il y a un pouvoir de décision qui échappe totalement à la possibilité d'influence, par exemple, par un vote, y compris par des manifestations, etc. Mais ce qui est le système européen qu'ils ont construit volontairement. Vous en parlez de Thatcher tout à l'heure. Il y a un truc qui s'appelle la Société du Mont Pèlerin, qui s'est constituée en 1944, dans lequel il y avait Thatcher, justement, et dans lequel il y a toute la pensée libérale qui était constituée à ce moment-là. Il y a von Hayek, enfin, tous ceux qui ont été, von Hayek c'est un économiste, hein, tous ceux qui ont été à la structure de la pensée libérale. En 1944, ils font une réunion et ils disent « le monde vire au socialisme ». En particulier les États-Unis. Ça paraît, quand on voit de l'extérieur, ça paraît fou. Mais ils disaient les États-Unis sont socialistes. C'est ce que vous retrouvez dans le Tea Party maintenant, hein, aux États-Unis, le même type de trucs. Et ils réfléchissent à comment il est possible de renverser ça. Ils disent, il n'est pas pour ça, il faut renverser le pouvoir des États, parce qu'on connaît du point de vue du libéralisme. Mais un des points majeurs, c'est qu'ils disent, si ce programme est mis sur la table, jamais les populations ne l'accepteront. Il faut donc contourner le choix démocratique des populations. Il faut que ça s'impose. Il faut que ça s'impose en dehors de ce choix démocratique. Il faut casser les syndicats, ce qu'a fait Thatcher, c'était le programme du Mont Pèlerin, mais avec des mécanismes qui leur échappent. Et en Europe, ils ont trouvé un truc absolument fantastique, qui est le fait qu'ils ont une structure qui n'est pas un État, mais qui décide quand même de... Alors maintenant, ça devient absolument démentiel. Bon, ils décident pour quasiment une proportion considérable. C'est 67% des lois françaises, quand même, qui ne sont que la traduction de directives européennes. Les quatre directives européennes, contrairement à ce que tous les souverainistes nous disent, ne sont pas des directives européennes. On ne peut pas avoir une directive européenne si tous les gouvernements n'ont pas donné leur accord. Donc ils se réunissent clandestinement, décident d'une directive, et puis vous disent, c'est une directive européenne, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce mécanisme-là, c'est un des exemples, hein, qui font que le passage par la possibilité classique, disons, de qui jouait entre la gauche, la droite, etc., d'avoir un minimum de modifications, est en train de s'effondrer. D'où, par exemple, les indignés espagnols, c'est le point majeur. Ils ne nous représentent plus. Le problème, c'est que, donc, par rapport à ce que vous indiquez, le pouvoir qu'ils ont, ce n'est pas seulement le pouvoir économique, c'est l'organisation générale et la désorganisation du camp adverse. Qui nous divise en permanence par une série de mécanismes qui sont, par exemple, politiques, ceux-là, sans compter les mécanismes idéologiques, médiatiques, etc. Bon, comment il est possible de contrebalancer une telle chose? La mobilisation d'en bas, ce qu'on voit, mais l'histoire montre que tant qu'ils restent unis en haut, c'est quand même très difficile. C'est-à-dire que toutes les grandes ruptures combinent la volonté d'en bas de pousser et le fait qu'en haut, ils commencent à se diviser. Et ce qui est fou, enfin ce qui est effectivement là pour le coup démoralisant, c'est qu'on a la crise que l'on connaît, bon, sans compter la crise écologique, on vient de discuter de tout ça, mais enfin, la crise 2008 qu'on a là, c'est qu'on a la crise de la dette, c'est jamais que la même, hein, ça continue. Et à l'échelle du monde entier, toutes les classes dominantes continuent à ne pas vouloir bouger d'un millimètre, sur rien, ni sur les banques, ni sur le système. C'est un truc qui est déprimant. Au moment de la crise de 29, au bout d'un moment, du sein même des classes dirigeantes américaines, il est sorti quand même des trucs qui paraissent inimaginables maintenant. C'est-à-dire, par exemple, la taxation à 100%, au-delà d'un certain niveau de revenus, 100%, comme disait Marché à l'époque, pour que ça se souvienne, à partir de ce moment-là, je prends tout. Bon, c'est Roosevelt. Ils ne l'ont pas fait complètement, mais quand même. Il y avait des projets de faire en sorte que les bourses soient totalement fermées. Il y avait des projets qu'ils ont mis du fait qu'on pouvait acheter une action, mais pas la vendre avant 6 mois. Vous rendez compte, maintenant, c'est à la seconde. Bon, eh bien... Voilà, sans compter les ventes à perte, etc. Bon, ce qui fait que... là, je suis un peu long, mais je vais terminer. Ce qui fait que, par rapport à votre question, il faut que la poussée d'en bas soit suffisante pour qu'en haut, ça commence quand même à se scinder, qu'il y a des endroits qui commencent à prendre peur, qui commencent... Alors, ce qui est en train de se passer, je ne sais pas, mais c'est possible. Mais ce qui est vrai, c'est que les mécanismes par lesquels ça pouvait passer jusqu'à maintenant ne marchent plus. D'où le fait de tous les indignés de partout, c'est-à-dire qui passent, qui essayent de passer ailleurs. Bon, parce qu'en Espagne, il va y avoir des élections, manifestement la droite va l'emporter, qu'est-ce que ça va changer? Rien. En Grèce, c'est la gauche. Vous voyez, tous ces éléments-là font que les gens, ça ne peut plus passer par là. Donc par où ça peut passer? Ça dépend de nous tous. Enfin, nous tous, pas nous dans cette salle, parce que là, évidemment, ça ne suffirait pas. Mais c'est une vraie question. Ça, c'est une question, moi, enfin, ça nous travaille jour et nuit. C'est comment ça se fait qu'il y ait tant de gens qui n'aient pas intérêt au maintien de ce système, plus ou moins. Il y a des gens qui sont vraiment misérables, d'autres moins. Enfin, quand même, on pourrait s'entendre pour avoir un autre système dans lequel tout le monde y bénéficierait. Et on y arrive difficilement. Donc c'est une excellente question. Bah, il faut continuer à travailler.
Oui. Oui, bonjour. C'était pour rebondir donc, sur le cri du cœur que j'ai entendu sur la question de l'inertie. Et peut-être pour aborder un thème, alors j'ai pris un peu le temps en marche, mais moi j'aimerais parler d'éducation. Je ne sais pas si on en a parlé, mais je trouve que c'est un des éléments clés peut-être de transformation de société. Là, on est en train de parler, on est en 2011, dans un demi-siècle ou dans un siècle, on reparlera encore probablement de ces questions-là, comme on en avait parlé il y a un demi-siècle ou il y a un siècle. Et ce qui me paraît, moi, important dans une vision peut-être à moyen ou long terme, c'est que si on a des enfants d'aujourd'hui qui ont une acuité développée, qui ont un sens du respect, un sens de la connexion à l'autre et à la nature, ça sera les adultes de demain pour lesquels ces adultes de demain qui seront par exemple des ingénieurs n'auront même pas l'idée de créer des choses qui pourraient souiller la planète. Donc moi ce que je pense par rapport à cette question de l'inertie, c'est que d'une part, un des éléments peut-être pour l'aborder, pour attaquer le problème, c'est l'éducation et on voit bien à quel point elle est sapée à l'heure actuelle. Et donc ça montre bien aussi à quel point c'est quand même un point critique vis-à-vis du système qui est de se sauvegarder lui-même dans ces sphères. Et puis un autre point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça fait des millénaires que c'est comme ça. Enfin, on a toujours eu une structure, je dirais en termes de communauté humaine, où on mettait des représentants en haut, où le peuple lui-même se laissait guider par le représentant ou par celui qui est élu ou par le chef religieux ou par ce que vous voulez, et que cette structure-là, peut-être qu'elle touche, elle commence à être interrogée, à toucher à sa fin, parce qu'on se demande, effectivement, moi j'ai toujours été étonné de d'élire un représentant. Personne ne peut me représenter exactement ce que je suis, je le suis. Et comment quelqu'un peut me représenter? Surtout que cette personne à qui on donne un mandat, dans un an, est peut-être totalement différente du temps T où j'ai voté pour elle. Donc je me pose des questions vis-à-vis donc, de science et démocratie. Les fondements qu'on pose comme ça, la démocratie telle qu'elle est actuellement, peut-être que nous, peuple, on peut se demander de quelle façon on pourrait la faire évoluer, de façon à ce que nous, citoyens, on n'ait pas plusieurs strates
comme ça entre ce qu'on voudrait avoir apparaître et finalement il y a plein de strates comme ça qui nous en empêchent. Je prends un exemple tout bête, c'est j'aimerais que nos enfants mangent bio à la cantine. Et ben avant que entre ce qu'on a envie de ce qui s'y passe et le moment où ça se passe, ben vous pouvez attendre 5 ans ou 10 ans, hein, parce que on n'a pas la prise directe. Donc moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'on n'a pas, justement vis-à-vis de cette question d'inertie, intérêt à se poser des questions fondamentales, donc des questions de fondation de notre société, à savoir une éducation, je dirais, beaucoup plus de qualité, beaucoup plus fine, et notre système politique, est-ce qu'il est vraiment adapté finalement au 21e siècle? Parce qu'on voit bien qu'on a beaucoup plus envie de participer peut-être qu'il y a un siècle ou deux siècles, je ne sais pas. Voilà.
Je voudrais remercier chaleureusement Radio Zanzine qui a accepté de venir pour le Science en bobine à Trescléou. Je voudrais remercier aussi tous les intervenants qui sont ici présents. Et puis, bien entendu, toutes les personnes qui auraient bien voulu peut-être intervenir, mais qui n'ont pas osé, comme moi, intervenir, parce que c'est pas évident de prendre la parole, de toute manière.
Merci.